écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel.
RFI Midi, Stéphane Genest.
Et c'est la dernière partie de RFI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Et on revient évidemment en longueur sur la convention démocrate aux États-Unis. Elle s'est achevée hier soir. 4 jours de fête à Chicago pour investir officiellement Kamala Harris comme candidate du Parti démocrate à la présidentielle de novembre prochain. On est justement à Chicago avec notre correspondant et notre invité. L'actualité des Outre-mer qui nous emmène en Guyane puisque le vivano, poisson très apprécié des consommateurs ultramarins, ne sera désormais plus taxé en Europe comme un produit d'importation. C'est à la une de votre journal des Outre-mer d'ici 20 minutes. Et d'abord le journal avec Charlotte de Rouen. Bonjour Charlotte.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence en Russie, cette prise d'otage en cours dans une prison de la région de Volgograd.
Oui, il y a plusieurs morts selon les autorités. Des blessés ont été transportés à l'hôpital à Volgograd. Plusieurs prisonniers ont revendiqué leur appartenance à l'État islamique. Ils s'en sont pris à des employés d'une colonie pénitentiaire de sécurité maximale, Jean-Didier Revoin.
Les images relayées par différentes chaînes Telegram sont glaçantes. On y voit des corps de gardiens de la colonie étendus par terre, visages floutés et des traces de sang sur le plancher, pendant qu'un détenu, couteau à la main, maintient à genoux un autre employé. On sait que 4 prisonniers ont profité d'une réunion du comité disciplinaire de la prison pour passer à l'action, armés de marteaux, de couteaux et de ciseaux. Ils ont confirmé leur allégeance à l'État islamique et dit agir pour venger leurs frères emprisonnés légalement. Ils réclament en outre un hélicoptère avec à bord 2 millions de dollars, des doléances transmise à Vladimir Poutine par le chef des services pénitentiaires. De leur côté, les autorités ont réagi en dépêchant sur place des unités des forces spéciales, alors que cette prison de haute sécurité compte 1230 détenus. Elles ont également ouvert une enquête pénale à l'encontre des détenus impliqués qui se sont rencontrés en prison. Et selon les dernières informations, les forces de sécurité se préparent à donner l'assaut et libérer les otages. Un hélicoptère ambulance étant arrivé sur les lieux. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Le Premier ministre indien Narendra Modi est en Ukraine aujourd'hui. Une visite historique pour tenter de faire avancer les efforts diplomatiques en vue d'un règlement du conflit avec Moscou. L'Inde, qui entretient de très bonnes relations avec la Russie, Narendra Modi a rappelé que son pays était attaché à rétablir la paix et la stabilité dès que possible dans la région.
Elle promet d'être la présidente de tous les Américains et de se battre pour le peuple.
Kamala Harris a officiellement été investie candidate des démocrates hier à la convention qui s'est achevée à Chicago. Dans son discours, elle a promis de tracer un nouveau chemin pour le pays, un discours aux accents patriotiques. Et durant ses 40 minutes à la tribune, la candidate a aussi évoqué la guerre à Gaza. Sur ce dossier, elle est sur une ligne de crête. Kamala Harris doit conserver le soutien des démocrates pro-israéliens, mais aussi tenter de conquérir un nombre important d'Arabes américains qui s'étaient détournés de Joe Biden lors des primaires. Une vraie position d'équilibriste, écoutez.
Il est temps maintenant de conclure un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Permettez-moi d'être claire, je défendrai toujours le droit d'Israël à se défendre et je veillerai toujours à ce qu'Israël ait la capacité de se défendre parce que le peuple d'Israël ne doit plus jamais être confronté à l'horreur qu'une organisation terroriste appelée Hamas a provoquée le 7 octobre. En même temps, ce qui s'est passé à Gaza au cours des 10 derniers mois est bouleversant. Tant de vies innocentes perdues, de personnes désespérées et affamées fuyant sans cesse pour se mettre à l'abri. L'ampleur de cette souffrance est déchirante. Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que la souffrance à Gaza prenne fin et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination.
Kamala Harris qui se dit donc engagée pour un cessez-le-feu à Gaza. Aujourd'hui, au Caire, les discussions à ce sujet se poursuivent en présence des négociateurs israéliens. Et puis notez qu'au Liban, 7 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes aujourd'hui dans le sud du pays, dont 3 combattants du Hezbollah, selon le ministère libanais de la Santé.
Au Venezuela, sans surprise, la Cour suprême a validé hier les résultats des élections présidentielles et de la réélection donc du président.
Nicolas Maduro qui avait lui-même saisi l'instance début août pour faire valider sa victoire. L'annonce de sa réélection avait été fortement contestée et provoqué de grandes manifestations durement réprimées à Caracas, la correspondance d'Alice Campagnol.
Pas de surprise dans la décision du tribunal suprême de justice. Nicolas Maduro a bel et bien remporté l'élection, selon ses magistrats, après une expertise de plusieurs semaines. On écoute la présidente de la Cour, Carlisla Rodríguez.
Le rapport élaboré par les experts électoraux, très qualifiés et adaptés à leur mission, certifie sans doute possible le matériel électoral analysé. Et la chambre du tribunal valide donc à nouveau les résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet 2024, lors de laquelle le citoyen Nicolas Maduro Moro a été élu.
Edmundo González, le candidat déçu de l'opposition, a qualifié la décision de nulle. L'institution serait, selon lui, incompétente en matière de résultats électoraux. La souveraineté, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, est entre les mains du peuple. La mission du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme au Venezuela a alerté hier sur le manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal et les déclarations victorieuses des proches de Nicolas Maduro, la veille de l'annonce, semblent confirmer les liens très étroits entre magistrats et membres du gouvernement. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et aujourd'hui, l'Espagne insiste pour avoir la publication complète de tous les procès-verbaux des bureaux de vote vénézuéliens. Il est essentiel que les résultats du vote soient publiés de manière complète et vérifiable, indique le porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères.
On part au Canada à présent, Charlotte de Rouen, puisque les trains de fret devraient de nouveau circuler dans les prochains jours.
Le gouvernement canadien est intervenu hier en fin de journée pour forcer la reprise du travail. Le fret ferroviaire est crucial pour l'économie du Canada. Le ministre du Travail a donc décidé d'imposer un arbitrage pour mettre fin au conflit social qui oppose les deux plus grandes compagnies de chemin de fer et le principal syndicat de cheminots. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour.
Les autorités canadiennes s'inquiétaient de l'impact économique de cette interruption de service sans précédent.
Oui, le ministre du Travail Stephen McKinnon a été clair. L'économie canadienne ne peut pas attendre. La moitié des exportations du pays dépendent du réseau ferroviaire et plus d'un milliard de dollars canadiens en marchandises y circulent chaque jour. Selon le ministre, après plus de 9 mois de discussion, les négociations des nouvelles conventions collectives sont dans une impasse. Le syndicat des cheminots et les deux opérateurs ferroviaires sont donc renvoyés devant le Conseil canadien des relations industrielles. C'est lui qui tranchera les litiges et imposera un accord. Les différends concernent les conditions de travail. Les compagnies demandent aux employés plus de flexibilité dans leurs horaires. Cet arbitrage exécutoire signe la fin des lockouts déclenchés par les entreprises, un moyen de pression du patron qui consiste à fermer temporairement une compagnie et à cesser de verser les salaires. Mais les trains devront encore attendre quelques jours avant de filer à pleine allure. Une des deux compagnies a bien repris le travail après l'intervention du gouvernement. Mais les salariés du CPKC disent attendre l'arbitrage avant de reprendre les rails.
Gali Bonin.
En France, Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis politiques aujourd'hui pour des consultations.
Le process doit aboutir à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ce matin, les représentants de la gauche du nouveau Front populaire se sont rendus à l'Élysée. Selon le patron du Parti socialiste Olivier Faure, le président aurait reconnu que ceux qui ont participé au Front républicain sont parfaitement légitimes à gouverner. Cet après-midi, ce sera au tour des représentants du centre et de la droite d'être reçus à l'Élysée.
Les consultations qui sont d'ailleurs encore en cours. Merci beaucoup. C'était le journal avec Charlotte de Rouen. 15h09 ici à Paris, 8h09 à Chicago.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'était hier soir à Chicago lors de la convention démocrate américaine. Kamala Harris qui peine à prendre la parole pour son discours d'investiture tant l'ambiance était chaude dans la salle puisque ça y est, elle est officiellement la candidate du parti pour l'élection présidentielle de novembre. Fin de cette convention, le rideau qui est donc baissé, les ballons rouges, blancs et bleus sont dégonflés, le câble est revenu dans la ville. Et justement, nous y retrouvons notre envoyé spécial à Chicago. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour à toutes et à tous.
Kamala Harris qui a donc pris la parole, discours d'une quarantaine de minutes durant lequel elle a parlé d'elle et de son parcours, Guillaume.
Oui, elle a commencé par se présenter, tout simplement, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, fille d'un Jamaïcain et d'une Indienne venue vivre leur rêve américain. Elle a grandi élevé par sa mère près de San Francisco dans des quartiers habités par des gens à la peau foncée. Une enfance populaire donc qui lui a donné le goût de défendre les gens qui les fréquentaient, ces quartiers, en devenant procureur. Elle s'est présentée comme la candidate du peuple, le client de toute sa carrière, a-t-elle expliqué.
Et elle a donc souligné le contraste avec son adversaire républicain, Donald Trump.
Oui, pendant son discours, elle l'a étrié de manière répétée, l'accusant de ne vouloir servir lui qu'un seul client, sauf qu'il s'agit de lui-même et de ses amis milliardaires et de ses alliés extrémistes, des gens qui ont perdu la tête, dit-elle, sur la question du droit des gens à disposer d'eux-mêmes, et en particulier des femmes à disposer de leur corps. Elle met en garde les Américains sur les conséquences d'un retour de l'ancien président à la Maison-Blanche avant de reprendre l'un de ses slogans fétiches, « We are not going back », nous ne reviendrons pas en arrière.
C'est donc entre deux visions très différentes que les Américains ont le choix, d'après elle.
Oui, pour le dire très simplement, un choix entre la division et l'inclusion. Elle veut être la présidente de tous les Américains et celle d'une certaine tradition. Écoutez Kamala Harris.
Let us show each other and the world.
Montrons à nous-mêmes et au monde qui nous sommes et ce que nous défendons. La liberté, les opportunités, la compassion, la dignité, l'équité et les possibilités infinies. Nous sommes les héritiers de la plus grande démocratie dans l'histoire du monde. Et au nom de nos petits-enfants et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté, nous devons être dignes de ce moment.
C'est donc comme cela qu'elle conclut non seulement son discours, mais aussi une convention et plus largement une incroyable séquence qui a vu le Parti démocrate passer des tourments et des doutes liés à la candidature de Joe Biden, largement remercié pendant cette convention où il s'est exprimé lui-même lundi, à l'espoir retrouvé avec la candidature de Kamala Harris. Joe Biden, on a l'impression désormais que c'était il y a vraiment très, très longtemps.
Le récit de Guillaume Nodin, envoyé spécial de RFI à Chicago. Merci Guillaume d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Alexis Buisson, vous êtes également en ligne avec nous depuis Chicago. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes auteur de la biographie de Kamala Harris, L'héritière, parue aux éditions L'Archipel. J'en profite d'ailleurs pour préciser qu'une réédition de votre livre avec des mises à jour et des interviews va bientôt être publiée. Vous avez suivi toute cette convention au plus près des sympathisants démocrates, dans quel état d'esprit étaient-ils ?
Ils étaient très, très heureux, très enthousiastes. Hein. Il y a plusieurs délégués démocrates qui étaient présents donc à Chicago qui m'ont dit que cette convention allait être en quelque sorte un pic d'enthousiasme, un pic d'euphorie. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. On a vu beaucoup d'émotions pendant cette convention, des larmes de joie, des larmes de tristesse. Il y avait vraiment des moments très forts où les démocrates ont pu détailler leurs différences avec les républicains. Mais il y a aussi un aspect important. Beaucoup d'intervenants et de militants à qui j'ai parlé ont dit que c'est une élection qui sera très serrée, qui se jouera certainement à quelques milliers de voix ici et là. Et donc, même s'il y a énormément d'enthousiasme, il y en a beaucoup qui disaient que le plus important, ça sera les jours qui viennent, les semaines qui viennent, jusqu'à l'ouverture du vote anticipé dans certains États, dès la mi-septembre, mais surtout jusqu'au 5 novembre, qui sera effectivement le grand jour, le jour J.
On va se consacrer sur le profil de Kamala Harris. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Elle les a séduits, ses sympathisants?
Oui, je pense qu'elle les a rassurés. Ils étaient soulagés déjà que Joe Biden ne se représente pas. Mais là, ce qui s'est passé à mon sens hier avec son discours qui était extrêmement fort, c'est que ils font désormais bloc derrière elle. Elle ne représente pas une candidate en quelque sorte par défaut qui n'a fait que remplacer Joe Biden.
Qu'est-ce qu'il lui trouve ?
Là, c'est vraiment une candidate. Il y a l'idée qu'elle est nouvelle, qu'elle représente quelque chose de parfaitement inédit dans la vie politique américaine, ce qui est vrai. Elle représente une nouvelle génération de leaders et surtout, elle représente une nouvelle manière de parler de Donald Trump. les démocrates avaient tendance à être un peu tétanisés, selon moi, face à Donald Trump. Kamala Harris, elle, ne se laisse pas impressionner, elle se moque de lui, elle en parle de manière vraiment très, beaucoup plus efficace d'une certaine manière que les démocrates qui sont venus avant elle.
Oui, elle a un style différent hein, dans la façon dont elle répond aux attaques de Donald Trump. Elle occupe le poste de vice-présidente depuis 4 ans. Elle est toujours finalement restée plus ou moins dans l'ombre. Est-ce qu'elle attendait son heure discrètement et c'est ça aussi sa force ?
Oui, tout à fait. Elle a des ambitions présidentielles depuis des années. Je rappelle qu'elle a été candidate aux primaires présidentielles en 2019. Et donc, c'est quelqu'un qui se prépare, qui veut être président depuis longtemps. La première fois qu'elle évoque d'ailleurs ses ambitions présidentielles, c'est en 2007. Donc, ça fait effectivement beaucoup de temps. Et la vice-présidence, ça a été une excellente école pour elle. Elle a appris à travers ce poste, qui est effectivement discret, où l'on doit se mettre en retrait par rapport au président, eh bien, elle a appris à voir le monde à travers le prisme de la Maison-Blanche et à raisonner comme un président. Alors, beaucoup de gens ont dit effectivement qu'elle était effacée, qu'elle était trop discrète pendant 4 ans. Mais ce qu'on a vu hier, c'est que finalement, toute l'expérience qu'elle avait emmagasinée discrètement dans l'ombre de Joe Biden ces 4 dernières années, eh bien, portait ses fruits.
Ça y est, elle est arrivée à maturité. Elle a définitivement appris cet exercice du pouvoir. Et ce rôle peut-être à la Maison-Blanche d'ici janvier ?
Oui, tout à fait. Moi, mon sentiment, c'est qu'elle a vraiment gagné en aplomb. Elle a gagné en expérience internationale, puisque c'est quelque chose qu'elle n'avait pas jusqu'à présent avant d'être vice-présidente, à part quelques missions quand elle était procureure de Californie pour lutter contre les cartels, où elle avait dû faire des coopérations avec le Mexique. Mais là, effectivement, grâce à la vice-présidence, elle a noué des contacts avec les militants, avec des influenceurs proches du Parti démocrate, et qui ont été très importants pendant cette convention, et puis nouer des contacts avec des leaders sur la scène internationale, notamment le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et d'autres partenaires européens. Et ça, cela, bien sûr, assoit sa stature à un moment où elle brigue la Maison-Blanche.
Et c'est aussi comme ça qu'elle s'éloigne de Joe Biden, tout en reprenant le flambeau, visiblement.
Oui, d'ailleurs, quand elle parle de ne pas revenir en arrière, effectivement, elle vise Donald Trump, mais il y a aussi l'idée de tourner la page de toute une génération, finalement, de leaders plutôt âgés à laquelle appartient Joe Biden. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Mmh. C'est pas une pique, bien sûr, à Joe Biden, mais il y a effectivement cette idée de poursuivre le travail qu'elle a entamé avec Joe Biden, tout en faisant comprendre qu'elle représente quelque chose de nouveau, qu'elle représente une nouvelle génération, un nouveau profil, celui d'une femme métisse de 59 ans qui a grandi dans le berceau de la contre-culture dans la baie de San Francisco, alors que Joe Biden, c'est un homme de 81 ans, un homme blanc qui a grandi à l'autre bout du pays, sur la côte Est. Donc c'est véritablement un changement, une bascule au sein du Parti démocrate auquel on a assisté pendant cette convention.
Et donc ça a une conséquence, Kamala Harris peut toucher un nouvel électorat, notamment les jeunes, et elle a développé justement une stratégie sur les réseaux TikTok. Son compte est très viral.
Oui, tout à fait. Et c'est quelqu'un qui a toujours été assez proche des influenceurs. Pendant sa vice-présidence, elle a noué des contacts avec un grand nombre de jeunes militants qui sont très actifs sur Instagram, sur TikTok et sur d'autres plateformes qui sont très prisées par la jeunesse. Et effectivement, on a vu pendant cette convention démocrate, les organisateurs de cette convention faire le choix d'accréditer un grand nombre, plus de 200 influenceurs, des créateurs de contenu, comme ils disent, pour porter justement le message de la candidate et des démocrates auprès de publics jeunes. Et c'est effectivement, finalement, ça correspond assez bien à l'image de Kamala Harris, qui veut se donner l'image d'une candidate dans l'air du temps, qui est une femme bien dans ses baskets, qui assume le pouvoir qu'elle a et qui finalement fait écho aux volontés. Oui. De femmes qui sont aujourd'hui aux États-Unis en train de monter en puissance dans la politique, dans les cercles économiques, etc.
Et donc cette autre manière de voir la politique. Merci beaucoup Alexis Buisson, auteur de la biographie de Kamala Harris, l'héritière aux éditions L'Archipel. Une réédition justement est prévue pour le 17 octobre prochain, jour du premier débat entre Kamala Harris
Absolument.
Et Donald Trump, justement, merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Ces trois titres de l'actualité à retenir ce vendredi. D'abord en Haïti, le Premier ministre Gary Conney souhaite demander aux États-Unis de partager les informations dont ils disposent sur Michel Martelly. Pour rappel, les autorités américaines ont sanctionné l'ancien président haïtien entre 2011 et 2016, Washington, qui l'accuse d'implication dans le trafic de drogue et d'avoir joué un rôle important dans la crise politique et sécuritaire qui frappe le pays. Gary Conney qui estime qu'il est important que les Haïtiens sachent pourquoi les États-Unis ont pris cette décision. La Cour suprême vénézuélienne valide la réélection du président Nicolas Maduro à la tête du pays, cela alors que l'opposition revendique la victoire et estime que cette décision de la Cour comme nulle et non avenue. Et puis au Canada, du mieux sur les rails du pays, on en parlait hier sur RFI, de ce lockout, de cet arrêt complet de la circulation des trains de marchandises en raison de négociations qui portent sur les conventions collectives entre syndicats et transporteurs. Le gouvernement s'en est mêlé. Le ministre du Travail a imposé un arbitrage exécutoire pour trancher les différends entre patrons et syndiqués. Le travail reprend donc pour le transporteur Canadian National, mais l'arrêt est maintenu en ce qui concerne le CPKC.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première qui nous emmènent en Guyane, puisque le vivano, poisson très apprécié des consommateurs ultramarins, ne sera désormais plus taxé en Europe comme un produit d'importation, Benoît Ferrand.
Oui, la taxe douanière à l'export de 15% imposée par Bruxelles vient en effet d'être supprimée suite aux récriminations des professionnels locaux, ce dont se félicite évidemment le président du comité régional des pêches de Guyane, Léonard Ragnot. Il répondait ce matin en direct aux questions de Mélodie Nourry.
La taxe a été supprimée à partir du 22 août 2024. Arbitrage présidentiel. Donc le combat de 2 ans de moi-même et de mon équipe au comité pêche avec le soutien de tous, hein, et je rappelle bien des services de l'État, de la CPG, des différentes collectivités, nous sommes engagés fortement à avoir supprimé cette taxe pour permettre à la Guyane, permettre à la pêche guyanaise d'être à nouveau concurrent sur le marché antillais et d'autres marchés. On va en fait finalement être à un niveau concurrentiel sur le marché international. Parce qu'en fait, notre vivano guyanais, qui est le seul vivano européen, était démarqué parce qu'il était trop cher, parce que la taxe s'y appliquait. Aujourd'hui, on revient pas sur un vivano moins cher, mais sur un vivano qui va être concurrent sur les autres pays qui fournissent le même produit.
Voilà pour le poisson. Parlons maintenant des fruits et plus précisément de la pitaya guadeloupéenne qui sera à l'honneur demain au marché de Sainte-Rose. Ce fruit, peu calorique, riche en vitamine C, l'un de ceux qui en parlent le mieux s'appelle Daniel Colli. Ce fruit de différentes variétés de cactus, rappelons-le. Daniel Colli, donc un véritable passionné, il est au micro de Josiane Champion.
Après maintes et maintes essais, je me suis rendu compte que c'était une plante qui était extraordinaire, sur laquelle on pouvait avoir effectivement des fruits et que ça risquait de porter et de rapporter. Donc du coup, j'ai eu l'idée de créer une page sur Facebook et je l'ai nommée tout simplement « Les amoureux de la pitaya en Guada ». Et de fil en aiguille, de membre en membre, le réseau s'est agrandi. Nous sommes à 2500 environ de personnes qui suivent et qui sont assidues puisqu'il y a énormément de demandes. Beaucoup de personnes sont avides de connaissances parce qu'ils ont sans doute possédé au moins un pied de pitaya, mais ils ne savaient pas comment le cultiver, comment obtenir des fruits. Ils l'ont toujours vu fleurir, ils ont toujours eu le plaisir de voir la fleur. Elle est belle, elle est magnifique, ça sent bon, mais ils n'ont jamais eu de fruits et curieux de savoir comment la cultiver. Donc nous sommes là pour les aider à y parvenir.
Le vivano de Guyane et la pitaya guadeloupéenne. Bon appétit Stéphane et bon week-end.
Merci beaucoup Guy Bonaferrand. Très bon week-end à vous aussi. RFI Midi touche à sa fin. On digère en musique. Et comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on poursuit notre périple musical à travers les États-Unis jusqu'à la présidentielle de novembre. On remonte le Mississippi avec le livre Rock'n'Roll Trip, les États-Unis en 1000 chansons de Laurie Kenton et de Julien Grosso. Laurie Kenton qui est au micro de Julien Coquel-Rohem.
Wherever You de Jackson Browne en 2008. Voilà qui est bien sombre, mais on n'en attendait pas moins pour évoquer l'ouragan Katrina qui frappe la Nouvelle-Orléans en 2005.
Un morceau de près de 10 minutes, moite comme le climat louisianais, qui fustige l'inaction du gouvernement fédéral alors que la population est livrée à elle-même. Et surtout la population noire, hein, qui n'a pas pu évacuer et qui se retrouve notamment parquée au Superdome.
Le grand stade de la Nouvelle-Orléans qui n'est pas idéal pour accueillir des réfugiés climatiques.
Et les conditions sanitaires sont déplorables et les pouvoirs publics sont totalement dépassés. We hold the truth self-evident, the photograph of the president.
From Air Force One, he views the devastation. On parle ici du président Bush qui survole la zone dévastée depuis Air Force One, rasée de près et reposée de retour de vacances. Le contraste est total avec la population livrée à elle-même en ville.
Et pourtant, ça n'est qu'une demi-surprise. La Nouvelle-Orléans est bâtie sous le lac Pontchartrain, en bordure du golfe du Mexique. Elle est donc totalement vulnérable et l'anticipation n'a pas été à la hauteur, mais pas plus que la réaction.
Ambiance tout aussi poisseuse et électrique avec l'immense When the Levee Breaks de Led Zeppelin en 1971, littéralement quand la digue rompra.
Et s'il continue de pleuvoir, la digue va finir par lâcher, nous dit-on. En effet, il est encore question d'eau, mais cette fois, c'est de l'eau du Mississippi, un peu plus au nord. Et il s'agit d'une reprise d'une chanson de 1929 signée Memphis Minnie et Kansas Joe McCoy au sujet de la grande inondation de 1927.
Et quelle est l'ampleur des dégâts ?
Alors c'est simple, c'est une des pires catastrophes environnementales dans l'histoire des États-Unis. 60 000 km² sous l'eau, 250 morts, mais surtout des dizaines de milliers de personnes forcées de quitter leurs terres submergées.
Ça n'a pas dû aider l'agriculture de la région, on ne l'appelle pas le Delta pour rien.
Et c'est une des raisons qui pousse les Noirs du coin à aller voir ailleurs si l'herbe est plus sèche. On en parlait la semaine dernière, Chicago est une destination assez évidente parmi les grandes villes du Nord.
Entre les tornades, les incendies, les tremblements de terre et les inondations, les États-Unis ne sont pas épargnés par les éléments, décidément.
À l'ironie, c'est que parfois il pleut beaucoup trop et parfois c'est l'absence de pluie qui est catastrophique.
LeRoy's Dust Bowl Blues de Steve Earle.
Qui chante le Dust Bowl, la grande sécheresse des années 30, qui frappe la région du centre-ouest, Oklahoma, Kansas et nord du Texas.
Mais ce n'est pas qu'une simple sécheresse.
Le problème est en fait accentué par la mécanisation de l'agriculture. La couche supérieure du sol est réduite en une fine poussière qui s'envole au moindre coup de vent. Et c'est pas ça qui manque dans la région.
Les photos de ce Dust Bowl sont impressionnantes. On y voit des murs noirs de poussière.
Et qui recouvrent tout sur leur passage, qui pénètrent partout, y compris dans les poumons, avec les dégâts que l'on peut imaginer.
Donc, une seule solution, Loric, l'émigration.
Pas tout de suite en fait, hein, parce que beaucoup de fermiers espèrent que ça ne va pas durer, que ces terres, jusqu'ici très fertiles, vont à nouveau être à la hauteur de leurs promesses. Mais avec le temps, oui, beaucoup chargent leurs voitures avec ce qu'ils peuvent et s'en vont.
Mais cette fois, pas vers Chicago.
Et direction la Californie, réputée pour son abondance.
On dit que la Californie est le paradis et qu'Hollywood change la nuit en jour, mais la réalité n'est pas à la hauteur des espérances.
C'est la trame des raisins de la colère de John Steinbeck. Hein. La Californie, c'est à la fois l'état des paillettes et de la poussière. Et ces migrants climatiques se trouvent coincés dans des camps, sous des tentes, du côté de Bakersfield, loin des palmiers, des plages et d'Hollywood. Et ils sont pas les bienvenus, hein. Mais Bakersfield devient la capitale d'une nouvelle forme de country, plus brute, plus électrique que celle de Nashville.
Une histoire très américaine en somme, d'adversité, de résilience, dont il sort toujours de la musique.
Ce qui nous offre une belle transition, puisque la semaine prochaine, on parlera du rêve américain.
À vendredi prochain, Loric.
Et c'est en musique que se referme le journal d'IT des Amériques et RFI Midi. Par la même occasion, à la réalisation, Mathieu Badre. Un grand merci à lui. Vous restez avec nous. Tout de suite, la suite de vos programmes sur RFI. Et à lundi pour une prochaine édition d'RFI Midi.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent.
Il est impossible de viser une croissance économique infinie sur une planète aux ressources naturelles limitées. Mais est-il possible de produire sans détruire? C'est le principe de l'économie, un concept élaboré par Emmanuel Druon, le patron de l'entreprise Pocheco près de Lille. Anne-Cécile Bras nous dévoile quelques secrets de la boîte à outils de l'économie.
C'est pas du vent, avec Anne-Cécile Bras, du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.